cette affaire-là. Puis là, en même temps, tu sais, je dis ça, puis je me dis, c'est sûr qu'il y a du monde qui nous écoute, puis qui me dit, ça n'a pas de bon sens de parler de même.
Ah, mais c'est drôle, parce que
les femmes en font plus.
Mais
oui,
moi,
oui,
je connais des femmes qui font beaucoup de trucs à l'extérieur, puis c'est les hommes qui font le lavage, le ménage.
Absolument, absolument. Mais peut-être que dans ces couples-là, où le partage des tâches est moins genré, c'est plus égal.
Ben,
j'ai l'impression.
Je le souhaite, honnêtement.
Parce que moi je trouve que ça devient lourd à la longue. Puis moi, je le vois, puis et sur moi et sur mon chum, ça pèse à un moment donné, cette lourdeur-là, cette charge-là de « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller là ». Fait que peut-être que cette application-là, que je vais essayer, pour vrai, je pense que je vais vraiment la télécharger, ça peut venir pacifier la patente, parce que je trouve que c'est quand même une grande source de conflit au sein des couples, les tâches. Puis, tu sais, des fois, à un moment donné, tu te dis, je dis plus rien.
Ben, ça tombe tellement. C'est que c'est des rappels qui font rappel. C'est pas toi qui fais
toute la famille.
Ça t'enlève le.
Moi, à un moment donné, j'avais fait un test dans mon ancienne vie avec mon ancien mari qui était quand même bon pour plein de choses, mais peut-être moins pour d'autres choses. J'avais laissé traîner la poubelle de la salle de bain très longtemps, c'est-à-dire que je l'avais pas vidée ni ramassée. Puis j'attendais de voir si quelqu'un allait le faire.
J'avais vu
Fred,
qu'elle était pleine.
Excuse-moi. Premièrement, les enfants, le mari. La poubelle débordait. C'était rendu que le contenu s'étendait autour de la poubelle. OK? Genre au bout d'une semaine et demie, deux semaines, là. Personne. Il n'y avait pas de service au numéro composé. J'ai pogné une nappe, j'ai vidé la poubelle dans le milieu du salon. Puis j'allais prendre une petite marche.
Oui, ça, c'est ce qu'on appelle l'apprendre à la dure.
Ben, c'est ce qu'on appelle, à un moment donné, l'écœur en titre de la madame qui fait tout. Donc, dans mes nouvelles relations, j'essaie de ne pas reproduire ce schéma-là.
Alors, cette application-là, je vous la conseille.
Harmonie, paix.
Harmonie, accord. Amen.
Mais je vais l'essayer. Non, mais sincèrement, puis on va en reparler si j'ai trouvé que ça m'aidait, parce qu'avec des ados, quand même, c'est aussi un défi. Tu leur demandes 800 fois de ramasser leur chambre. Écoute, j'ai trouvé quasiment les manuscrits de la mère morte dans l'armoire de ma fille. Elle m'a donné des bols, des cuillères, des verres. La cuisine est à 10 mètres de sa chambre, juste te dire. Ça semblait quand même être très difficile d'aller disposer de sa vaisselle sur le comptoir. Ben oui.
Ça donne le goût. Oui, c'est ça. Ça donne le goût d'avoir des enfants. C'est incroyable.
Fred Labelle, merci. On t'écoute à tous les matins avec Patrick Lagacé. À une prochaine fois.
Salut.
On s'arrête un instant et après la pause, on change complètement de registre. On va parler de ce livre qui m'a bouleversée. Ça s'appelle « Même pas morte ». C'est publié chez Stanquet. Son autrice, Geneviève Rioux, sera avec nous. Pour vrai, restez là parce que c'est, je pense, l'un des livres qui m'a le plus marqué. Je vais dire cette année, mais j'ai envie de dire peut-être de ma vie. Ça sera pas long.
J'ai une belle expérience à vous partager. Vous connaissez la pub. Vous voulez du nouveau dans la pièce maîtresse de votre maison? Faites comme moi. Appelez Michel de Comptoir ML. Avec lui, c'est facile. Il passe à la maison. Ensemble, on a pris le temps de bien analyser la cuisine et sélectionner les meilleures options possibles selon mon budget. Michel prend sous son aile tout le processus de transformation de A à Z et voilà, tout est au goût du jour. Sans hésitation, je vous recommande Michel de Comptoir ML au 418-509-8549. Ma visite va être renversée.
Le FM 93 Rimouski est là pour vous. Que vous ayez besoin de personnel ou simplement de parler de vos prochaines promotions, vous êtes à la bonne place. Acheter de la publicité dans une radio parlée, ça fonctionne. Demandez à nos clients. Lorsque vous souscrivez à un plan publicitaire au FM 93 Rimouski, vous avez accès à bien plus qu'une simple publicité. Chez nous, le client est plus qu'un client. N'attendez plus et contactez notre représentant aux ventes, Stéphane Morneau, au 418-905-0318 ou par courriel à vente au pluriel à commercial. FXRimouski.com.
Jusqu'au 8 décembre, le club de curling de Rimouski, en collaboration avec Réfrigération RC, appelle tous ses membres, entreprises locales, ainsi que la population, à participer en grand nombre à une collecte de denrées alimentaires non périssables au profit de Moissons Rimouski Neigette. Il sera possible de déposer vos dons dans les deux épiceries IGA Extra, ainsi qu'au club de curling situé dans le secteur des Berges à Nazareth. Un tournoi de curling au profit de l'organisme aura lieu les 22 et 23 novembre. Soyons généreux. Découvrez Taxi 800 de Rimouski. Besoin d'un taxi rapidement? Par téléphone 723-3344 ou téléchargez notre application gratuite et profitez d'un service rapide et fiable en quelques clics. Avec Taxi 800, réservez votre course en toute simplicité. Suivez votre chauffeur en temps réel. Plus besoin d'attendre. Nous sommes là pour vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Taxi 800 de Rimouski. Votre trajet, notre priorité. Téléchargez l'application maintenant ou contactez-nous 723-3344. Vous avez besoin d'un traiteur pour vos événements corporatifs, un 5 à 7 ou même pour un événement spécial? Le Pacific Traiteur est là pour vous. Une expérience inoubliable, un service sur mesure. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez visionner notre menu traiteur sur notre site web unionpacifique.com, puis nous envoyer votre demande de soumission par courriel unionpacifique-rimouski@commercial.gmail.com ou nous contacter par téléphone 418-723-3220. Le Pacific Traiteur, pour des éclats de saveur.
Okay, well, thank you very much.
Au réseau Cogeco Média, vous écoutez Ça va aller loin. Ça va aller loin. Loin.
Avec Geneviève Petersen.
Je vous l'ai dit au début de l'émission que j'allais essayer de faire beaucoup d'entrevues avec des autrices, des auteurs pendant les jours qui allaient suivre parce que c'est le Salon du livre qui va débuter. Je pense que c'est à compter du 27 novembre à Montréal. Et bon, je trouve que c'est l'occasion parfaite. Vous le savez, j'aime ça recevoir des auteurs à l'émission. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les médias pour la littérature. Puis tout le temps moyen de parler littérature de façon sociale, c'est-à-dire de prendre les enjeux souvent auxquels les livres s'attardent puis de les amener plus loin, de faire des discussions. Puis, le livre dont on va parler aujourd'hui, je l'ai lu cette fin de semaine. Bon, je vais pas mentir, là, je savais un peu ce dont il était question, mais c'est un livre qui m'a quand même bouleversée, que j'ai beaucoup aimé. Et je vous en profite avant de vous révéler le titre de ce livre-là pour vous dire que si vous avez des livres ou des auteurs dont vous aimeriez entendre parler à l'émission, juste nous envoyer un petit texto au 98985, où c'est toujours possible de m'écrire au savaaller-loin@98.5fm.ca. Il y a toujours mes médias sociaux aussi où c'est possible de me joindre. Et là, je ne vous fais pas plus attendre. Le titre du livre, ça s'appelle « Même pas morte ». Ça sort aujourd'hui, donc 20 novembre. C'est publié aux éditions Stanquet et c'est un livre qui m'a bouleversée pour plein de raisons. Son autrice est avec moi ici, Geneviève Rioux. Salut!
Salut Geneviève!
T'es-tu nerveuse?
Oui, je suis nerveuse, mais je suis surtout excitée d'être là. C'est tellement une grande journée. Ça n'a pas de bon sens. C'est magnifique.
Moi, je me rappelle que la journée où ton livre sort, puis là, où tu fais la promotion, ouais. C'est toujours un peu stressant parce que tu sais pas trop les questions qui vont être posées. Puis dans ton cas, c'est quand même assez délicat. J'ai envie de parler un peu de l'éléphant dans la pièce tout de suite en partant. C'est l'histoire d'une victime d'agression. C'est l'histoire d'une victime de tentative de meurtre, de tentative d'agression sexuelle. C'est une fiction, je le répète, je le souligne au crayon gras, mais ça part de ton histoire. Mm-hmm. Tu as vécu une histoire similaire et tu as décidé de prendre cette expérience-là puis de l'explorer en littérature. Tu as eu d'autres projets aussi par rapport à ça. Tu as fait des recueils de poésie, tu as fait différentes présentations. La première partie de David Goudreau aussi,
oui.
Ce que j'ai
droit.
De dire que tu partages ta vie avec cet auteur qu'on aime. Bon, t'as transformé, si on veut, cette expérience vraiment, vraiment, vraiment violente que t'as vécue en une création. Puis on parlera pas en détail de l'agression que t'as vécue parce qu'il y a une enquête encore en cours.
Oui, donc, tout à fait. Puis de toute façon, il y a des inspirations, mais c'est pas mon histoire. C'est l'histoire de ma protagoniste.
Absolument.
Stéphanie.
Donc c'est un roman. Mais parle-moi quand même, parce que ça m'a fascinée en le lisant, parce que c'est sûr que c'est un livre qui a une charge émotionnelle,
ouais.
Qui est très forte,
ouais, ouais.
Mais l'impulsion pour écrire ce livre-là, tu sais, pour te dire, Geneviève, je pars de cette affaire-là qui est quand même très dark,
ouais.
Puis je l'explore dans un roman. Raconte-moi un peu d'où ça t'est venu, c'est quoi la réflexion derrière ça?
Ben, il y a un message criant, d'abord, il y a une expérience de la violence, là, c'est le dénominateur commun entre mon personnage, Stéphanie, puis moi,
ouais.
Puis beaucoup de femmes, d'ailleurs, malheureusement, là, cette violence-là, elle est commune, et c'est pour ça qu'on a besoin d'en parler. Ce qui pousse à faire ça, c'est vraiment une quête de liberté, un désir d'émancipation. Tu sais, ce que je partage avec mon personnage, c'est de ne pas vouloir me laisser m'effondrer à travers tout ça. Puis je trouve que la littérature est un outil extrêmement puissant pour arriver à faire ça, pour transmettre un message, notamment la fiction permet d'aller plus loin que soi, puis de mettre en mots, de raconter quelque chose qui, sans la littérature, même la fiction, est pas racontable.
Ben, c'est tellement drôle que tu m'amènes là parce que moi, c'est un truc que je trouvais fascinant avec cette histoire-là, c'est de se dire, OK, tu sais, parce qu'il y a des victimes, t'es doctorante en psychologie,
ouais.
Il y a des victimes qui décident de prendre leur expérience traumatique, puis je sais pas, moi, de faire des conférences, de faire des chroniques dans les journaux, d'accorder des entrevues, mais de transformer ça en roman, ça a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que ça permet, la fiction, que le réel ne permet pas?
Ça permet toutes sortes de choses, la fiction. Ça permet justement de visiter des dénouements qui peuvent être différents, des traversées différentes.
Qu'on aurait peut-être souhaité,
entre autres. Steph, toutes les émotions à travers lesquelles elle traverse tout le vécu d'une victime après un événement comme ça. Il y a des trajectoires qui sont évidemment différentes et uniques, mais il y a d'autres types de dénominateurs communs. Il y a des expériences qui sont très partagées, que ce soit le traumatisme, la peur. Et ce que la fiction permet, c'est de transmettre des messages à d'autres victimes, des proches, des victimes collatérales, que on peut s'en sortir.
Ben, puis aussi peut-être d'aller dans la tête fois de Steph, qui est la victime.
Tenter de comprendre, porter des questionnements, des déchirements, les amener vers des résolutions possibles. Tout ça se fait dans la littérature.
Oui, puis je sais que c'est full cliché à dire, mais tu sais, c'est les répercussions de cette agression-là que tu racontes bien sur la protagoniste, mais sur ses proches aussi, sur ses amis, sur sa famille, tu sais, les gens qui savent pas où se mettre, qui savent pas quoi dire.
Du plus proche au plus loin, en fait, en passant, tu sais, par la médecin, le soignant qui est là, la jeune résidente qui est traumatisée de s'identifier à Steph parce que c'est une étudiante banale comme les autres, c'est une femme. Puis naturellement, on s'imagine toujours que c'est loin de nous, des événements comme ça, jusqu'à ce que ça frappe notre entourage.
Ben, le livre commence par une description de cette agression-là, cette femme qui est dans son appartement, qui vit une invasion de domicile. Puis tu disais tantôt que c'était une façon, cette histoire-là, peut-être, de, entre guillemets, reprendre le contrôle. Je ne vais pas te mettre des mots dans la bouche.
Tout à fait, il y a une reprise de contrôle.
Mais même le titre, là-dedans. Même pas morte. Moi, je l'aimais beaucoup, ton titre, parce que c'est comme de dire...
C'est pas qu'elle
le nargue, mais un peu.
Un peu, oui, tout à fait. C'est assumé, puis c'est le ton de la narration, en fait. On s'adresse à toi, l'agresseur. On le perd jamais de vue.
Oui, parce qu'il parle tout le temps au-dessus. Toi, t'as fait ça, toi, t'étais là.
Ben, en fait, le narrateur initial lui parle toujours. Stéphanie, son personnage, c'est elle, il est à l'extérieur. Puis ça, ça permet de visiter d'autres scènes où Steph est pas témoin. T'sais, c'est ça qui est intéressant aussi, d'avoir ce genre de narrateur-là. Ouais. Mais toi... C'est toujours à lui qu'on s'adresse, effectivement. Mm. Puis ça, je pense que ça permet non seulement à Steph de rester debout, même quand elle est tendue au sol, même quand elle est au bout de ses forces puis complètement vulnérable. Mm. Puis ça permet aussi de jamais perdre de vue l'objectif ultime qui est d'obtenir justice et de retrouver sa liberté et de ne pas laisser gagner l'agresseur, tu sais, à travers tout ça, qui finalement a raté son viol, a raté son meurtre et au bout du compte, n'y gagne pas grand-chose.
Comment ça a été d'écrire ça? Tu sais, de tout le processus d'écriture, parce que j'entendais David Goudreau dans le podcast Ouvre ton jeu avec Marc-Claude Barrette, puis au début de ce podcast-là, il aborde brièvement sa relation avec toi, Geneviève. Il parle de ton roman, puis il lui dit que pendant quand même une période assez longue, vous avez échangé sur ce processus-là. Ouais. Comment ça a été écrire ce livre-là, puis comment ça a été d'écrire ce livre-là avec un conjoint écrivain qui avait peut-être aussi un regard très très émotif sur ce que tu avais vécu, tu sais, ça devait quand même être spécial.
Mais au tout départ, quand on avait commencé à m'accompagner, c'était en 2020. Puis à ce moment-là, on n'avait pas une relation aussi proche. C'était une relation purement professionnelle. Fait que son regard était très littéraire, critique, puis encourageant surtout. Ça, c'est important de le dire. Fait que évidemment que ça devient un espèce de point cardinal. T'sais. J'avais besoin d'une boussole. Puis quand je m'écartais, David était bon pour me ramener puis me dire, Geneviève, fais confiance à tel truc dans le livre. Ça fonctionne. Faut juste que tu continues à pousser dans ce sens-là. Par exemple, il y a du rythme. Conserve-le. Puis David, dès le départ, il m'a dit une phrase, là, c'est pas de lui, c'est ce qu'il me citait, mais ce qu'on te reproche, cultive-le, car c'est toi. Et ça m'a servi souvent.
Oui, j'aime ça. Souvent. Bon, faudrait retrouver c'est de qui quand même.
Oui,
là,
ça serait important.
Tu nous le diras,
Exact. Mais oui, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il s'est installé un fil tout à fait émotionnel, là.
Ben oui.
Mais reste. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais reste. Puis moi aussi, j'ai douté à plein de moments. Ça a été un processus extrêmement laborieux parce qu'évidemment, c'est de la fiction. Absolument. Mais je peux pas m'empêcher de puiser dans un vécu émotionnel.
Mais tu revisites comme des émotions que tu as eues, des frustrations aussi, j'imagine.
Oui. Puis il y a quelque chose de très satisfaisant dans certaines tournures de phrases, des métaphores, des jeux de mots qui sont savoureux. comme autrice, mais personnellement aussi comme personne là, à travers tout ça, parce que ce toit-là, évidemment, c'est l'agresseur de Steph, mais il pourrait être l'agresseur de bien du monde. Fait ouais. qu'on, je pense qu'il y a plusieurs victimes qui peuvent porter la même mission que Steph, puis autant que des lecteurs, par procuration, peuvent vivre des choses à travers ce livre-là, je pense que ma famille aussi peut vivre des choses par procuration.
Tu as-tu pensé à ça en, tout au long de l'écriture, aux réactions?
Absolument, tout à fait.
Ça t'a pas freiné?
Ça m'a pas freiné parce que dans tout ce que j'écris, partant de mon recueil Survivace, je valide auprès de mes proches.
Ah, dans Survivace, tu leur poses la question avant.
Oui, dans Survivace, tu sais, c'est vraiment ma vérité qui est écrite là-dedans.
Qui est un recueil de poésie.
Qui est un recueil de poésie. Donc, à plusieurs moments, j'ai validé auprès de ma famille qui était à l'aise avec ce que je disais, puis qui parlait en